de Robert Arcan.
Et tous les mardis, on a le plaisir de recevoir du groupe Investors, Lucie Bouchard. Et Lucie, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit.
Bon matin.
On rend la gratitude, l'action de grâce.
Tout à fait.
Le week-end était beau, agréable.
Tout à fait, avec le beau soleil qu'il y avait hier, on en a profité.
Alors, c'était phénoménal et spectaculaire.
Oui, et pour une mi-octobre, c'est extraordinaire.
Bon, on se plaint pas. On revient sur le sujet qu'on a abordé la semaine passée, puis on n'a pas eu le temps d'y aller vraiment en profondeur, la perte d'emploi.
La perte d'emploi. Comme on a vu la semaine dernière, Robert, des gens qui perdent leur emploi ont souvent des indemnités de départ. C'est ce qu'on a discuté la semaine dernière. Cette semaine, on va aborder un petit peu plus le sujet « qu'est-ce qui arrive avec mon fonds de pension? » Donc, j'avais un fonds de pension au travail, où est-ce que j'étais? J'ai perdu mon emploi, que dois-je en faire? On a vu dans les dernières chroniques qu'un fonds de pension est transféré dans un CRI. Il n'est pas transféré dans un REER, OK? Un compte de retraite immobilisé. C'est ça que ça veut dire, le CRI.
Un CRI.
Pourquoi c'est comme ça? Parce que au bout de la ligne, le fonds de pension devait vous donner un revenu tout au long de votre vie. Le CRI, il est basé de la même façon. Donc, il y a un maximum qu'on peut pas retirer à chaque année. Il y a un maximum admissible qui est environ de 8 à 10 %, tout dépend à quel âge on va prendre notre CRI. Ce qui veut dire que des fois, les gens, ils ont beaucoup d'argent dans leur CRI. Ils pensent qu'ils vont pouvoir, exemple, retirer 50 000 $ pour aller s'acheter un bateau à la retraite. Mais non, ils ne pourront pas faire ça parce qu'ils vont pouvoir retirer seulement qu'un pourcentage de ce fameux CRI. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on perd notre emploi et qu'est-ce que je dois faire. On a parlé des assurances qui pouvaient être transférées. On a parlé de choses de départ qui nous donnent droit ou non au chômage. Mais le fameux fonds de pension, bien oui, doit être transféré et à ce moment-là, il doit être bien géré. Parce que, vous savez, souvent quand je fais un plan d'action, une différence de 2 % de rendement entre ce que vous avez maintenant et ce que vous pourriez obtenir si vous étiez mieux diversifié, mieux équilibré et d'avoir toutes les stratégies possibles, bien, à ce moment-là, peut représenter, pour ça dépend du montant qu'on a, évidemment, mais souvent, je vais avoir une différence entre 2 à 5 000 $ par année de plus net dans les poches du client, ce qui va faire que c'est souvent son voyage, c'est souvent sa gâterie qui va pouvoir se payer dans l'année. Fait que c'est de ça qu'on se prive quand on n'est pas bien planifié et qu'on n'a pas les bons outils, qu'on n'a pas les bonnes stratégies, qu'on n'a pas la bonne personne qui s'occupe de nous. C'est important au niveau de financier d'avoir, on l'a vu, hein, il y a plusieurs points qu'on a besoin pour faire de l'argent, mais entre autres, un des points, c'est d'avoir les bonnes stratégies financières. Donc, le CRI, qui fait partie de notre retraite, les gens souvent vont s'imaginer, bien, je vais prendre ça aussi pour retourner, exemple, comme travailleur autonome, je vais me partir une entreprise. Eh bien non, on ne peut pas retirer de son CRI comme on voudrait. Le CRI, il est fait pour la retraite. Donc, ce qui est très, très important de bien le planifier, de bien le prévoir. C'est un autre point, ça. Les gens qui sont travailleurs autonomes, qui disent, bon, bien, moi, je vais me partir une entreprise. Il y a des choses à faire avant de perdre son emploi. Entre autres, d'aller chercher du crédit. Parce que quand on est travailleur autonome et qu'on veut avoir du crédit, il faut démontrer au prêteur au moins 2 années financières positives. Et comme on sait, partir une entreprise, ça peut prendre quelques années avant qu'on soit positif, avant qu'on fasse de l'argent. Donc, c'est très important d'aller chercher le crédit qui va aller avec, qui va aller le fait que moi, je veux m'en aller travailleur autonome. Je sais que pendant plusieurs années, je n'aurai pas accès au crédit. Donc, il faut que j'aille le chercher avant. Donc, ça, c'est très important. C'est des choses qu'on planifie avec les clients, d'être capable, justement, de partir son entreprise et de ne pas s'inquiéter au niveau financier pendant quelques années. Les gens vont dire, « Ah, ben c'est pas grave, je vais sortir mes REER. » attention, attention, parce que vos REER, ils sont imposables, tandis que le crédit, il est déductible. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus payant d'aller chercher du crédit.
Question, est-ce qu'on peut déduire une marge de crédit?
Si elle est servie pour mon entreprise, tout à fait. Et encore là, il faut être bien planifié. Si ma marge de crédit, exemple, sert pour des choses personnelles, puis elle sert pour des choses d'entreprise, je ne pourrai pas la déduire. Par contre, si j'ai une marge de crédit qui va servir que pour mes choses d'entreprise et que je ne vais pas être capable de prouver que ça a servi que pour mon entreprise, à ce moment-là, oui, on va être capable de la déduire.
Donc, il faudra avoir comme 2 marges de crédit, une personnelle et une d'entreprise.
Oui, et même qu'on a déjà abordé précédemment aussi les marges de crédit qui sont déductibles déductible pour travailleurs autonomes. C'est ce qu'on appelle la mise à part de l'argent. Donc, rendre les intérêts de ma maison déductibles de mon entreprise parce que je m'en sers maintenant pour les dépenses de mon entreprise et non pas pour payer l'hypothèque de ma maison. Donc, il y a plein de stratégies qui sont possibles, qui sont payantes, qu'il faut mettre en place avant de devenir travailleur autonome, avant de se partir sa propre entreprise et de bien calculer qu'est-ce qui va être payant ou qu'est-ce qui ne le sera pas.
Et souvent, ce n'est pas le comptable qui va vous expliquer tout ça.
Non, moi, je dis toujours, le comptable va s'occuper du passé. L'année passée, qu'est-ce qui est arrivé? C'était quoi vos chiffres? Combien vous avez fait puis combien vous devez payer? Notre rôle à nous, en tant que conseiller, c'est de s'occuper de l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir?
Donc, ce n'est pas le comptable qui devrait dire, fais tant d'argent, fais donc ci, fais donc ça.
Non, absolument pas. Absolument pas. Le comptable, et je suis contente que tu en parles, Robert, parce que c'est un grand mythe, ça. Les gens, souvent, quand je vais leur parler, ils vont me dire, ben, j'ai un comptable. Non. Ton comptable et ce que moi je fais, c'est deux choses complètement différentes. On ne parle pas de la même chose. Ton comptable ne t'offre pas un plan financier.
Pourquoi?
Parce que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son travail. Son travail, c'est tout simplement de vous donner vos chiffres de l'année passée. Faire des colonnes de chiffres. Tandis que nous, on s'occupe vraiment de vous faire atteindre vos objectifs à travers tous les points et tous les plans possibles. Un autre point aussi, souvent, qu'on va voir, les gens vont dire, bon, OK, là, j'ai perdu mon emploi. À l'âge que j'ai, peut-être que je ne m'en retrouverai pas d'autres. Est-ce que je prendrais une retraite anticipée? Il y a beaucoup de points majeurs qu'il faut prendre en considération quand on veut prendre sa pré-retraite, dans le sens où est-ce que je dois reporter les versements du régime de rente et de la sécurité de vieillesse? Est-ce que j'ai un avantage à le faire? Bien, des fois, oui. Des fois, la réponse, c'est oui. Il faut mieux le reporter plutôt que le prendre tout de suite. Et moi, souvent, j'ai vu des gens qui ont pris leur régime de rente, ensuite, ont pris leur fonds de pension et retournent travailler. Donc, au bout de la ligne, ils payent tout en impôts, le régime des rentes. Pourquoi vous avez pris votre régime des rentes? Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas planifiés puis personne ne leur a dit que ça serait beaucoup plus payant d'attendre de le faire.
Bon, à un certain âge, on n'a pas le choix quand même.
Écoutez, c'est ça. Mais maintenant, on peut reporter après 65 ans, si on veut, jusqu'à 60 ans. Oui,
depuis
tout à fait. Ça fait plusieurs années maintenant. Dans certains cas, ça va être plus payant de le reporter pendant
quelques
années.
On peut dire, j'en veux pas tout de suite.
Pas tout de suite. Exemple, 66, 67 ans. Si on... Exemple... dans des plans financiers, où est-ce qu'on va supposer qu'on a beaucoup de gains dans l'année? On va avoir, mettons, une vente d'une entreprise ou le vente d'un immeuble. On va avoir beaucoup de gains, puis je vais finalement tout la retourner en impôt, ma régime des rentes du Québec. Bien, à ce moment-là, on va le reporter d'une année. Fait que ça veut dire qu'on va recevoir plus les années suivantes. C'est 6 % par année anticipée, mais c'est 6 % par année où est-ce qu'on ne l'a pas pris non, aussi.
Mais il n'y a pas un âge quand tu arrives, je ne sais pas, moi, 71.
Oui, là, à 71, on n'a plus le choix. On est obligé.
On
n'a plus le choix parce que ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne un REER. Aujourd'hui, si je prends 1 000 de REER et que je suis imposé à 38 %, le gouvernement va me redonner 380 $. Okay? C'est ce qu'on appelle le retour d'impôt parce que j'ai pris un REER. Ce 380 $-là, ce n'est pas une économie d'impôt, c'est un report d'impôt. On va devoir le rembourser à la retraite. Et là, la retraite, le gouvernement dit, à 71, t'es rendu assez vieux, tu commences à me rembourser les 380 $ que je t'ai donnés. Tout à fait.
Donc, pas mort,
et c'est ça le danger. Les gens, ils cotisent à leur REER, ils reçoivent 380 $ puis ils le dépensent. Et pourtant, il fait partie de leur retraite, ce 380 $-là. Il doit être réinvesti. Et là, intéressant, le CELI, parce qu'on va le réinvestir dans le CELI. Et quand on aura de l'impôt à payer sur le REER à 71 ans ou au moment de la retraite, bien, à ce moment-là, on aura dans le CELI l'impôt possible
puis
pour le
CELI,
payer.
Puis le CELI, il n'est pas imposable, c'est ça?
Ce qui n'est pas imposable du CELI, ce sont les intérêts. Ah. Et là, les gens mélangent bien
moi,
gros.
Je comprenais que le CELI me mettait à l'abri, je ferais plus.
En fait, si j'ai, exemple, j'ai 100 $ dans mon compte bancaire, puis mon compte bancaire me donne 5 $ d'intérêt, bien, à la fin de l'année, je vais devoir payer de l'impôt sur le 5 $ d'intérêt que j'ai reçu. OK? Ça, donc, selon mon taux d'impôt à moi. Ensuite de ça, dans le CELI, le même 100 $ qui a fait le même 5 $ d'intérêt, je n'aurai pas d'impôt à payer sur l'intérêt que j'ai reçu. Mais là, regarde bien, les gens utilisent le CELI à court terme, avec peu ou pas d'intérêt. Qu'est-ce qu'ils ont mis à l'abri de l'impôt?
Le CELI, ça ne rend pas des gros intérêts, ça.
Bien, si on le met à court terme, mais si on le met à long terme, comme c'est réel, il va rapporter la même chose que c'est réel.
C'est quoi, long terme, c'est un CELI?
Bien, le produit qu'on va choisir va être en fonction de l'objectif. Ce qui veut dire que si mon CELI, c'est pour aller voyager l'année prochaine, puis que je fais une pièce d'intérêt, OK, bien, tu as sauvé 40 sous. Parfait, excellent, c'est le fun. Mais si mon CELI, il est pour ma retraite, et ma retraite, exemple, elle est dans 10 ou 15 ans, puis j'ai fait 100 $ d'intérêt, bien là, à ce moment-là, j'ai sauvé 38 $ d'impôts. Fait que là, c'est vraiment, le CELI, c'est un produit qui est payant à long terme. C'est sûr que s'il n'est pas utilisé et que je veux accumuler du court terme, je vais m'en servir quand même. Ouais. Mais il reste que ce n'est pas des placements court terme qui rapportent le plus, ouais. Ce sont les placements long terme.
Lucie, j'avais une autre question. Souvent, on a le droit de prendre du REER X montant par année.
Oui.
Puis si on ne le prend pas une année, puis l'année d'après, c'est cumulatif, puis à un moment donné, on peut tout prendre la même année?
On peut tout prendre la même année.
Mettons, j'ai 60 000 de REER que j'aurais le droit de prendre, puis oui. Je ne l'ai pas pris.
Oui. Bien, quand on parle de perte d'emploi, c'est une des choses souvent qu'on va regarder. Si mon employé a reçu une prime de départ et qu'il y a beaucoup de REER accumulés, OK, inutilisés, qu'on appelle.
Qu'on n'a pas pris, qu'on a le droit.
Bien, à ce moment-là, on va supposer que mon employé perd son emploi au mois de décembre, mais il a travaillé toute l'année. Et il y a un gros revenu. Si mon employé, il dit, ben moi, je vais m'en aller travailleur autonome et j'en déclarerai plus de revenus, ben il ne pourra plus prendre de REER dans les années suivantes. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une planification de la dernière année où est-ce qu'il a travaillé avec sa prime de départ. On va cotiser dans REER, puis on va lui donner le retour d'impôt à ce moment-là pour partir son entreprise.
Mais mettons, cette année, là, je fais mes impôts, je me dis, bon, dans les 5 dernières années, j'aurais eu le droit de prendre tant par année dans mes REER, je ne l'ai pas fait.
Oui.
Je peux-tu, cette année, prendre tout cet argent-là accumulé?
Oui, tout à fait.
Je m'achète 50 000 REER.
Tout à fait. Et c'est là que ça devient important de faire une bonne planification, parce que jusqu'où je prends des REER, jusqu'à quand c'est payant, vous voyez, là, on regarde les tables d'impôt dans ce temps-là. Ce qui veut dire que si j'ai un employé qui travaille, exemple, entre 42 et de mémoire, 84 000, il va être à 38 % d'impôt. Mais au-dessus de ça, il en paye plus, puis en bas de ça, il en paye moins. Donc, on suppose que quelqu'un va faire 50 000 de revenus, bien, prendre plus que 10 000 de REER, il va recevoir 28 % d'impôt au lieu de 38 s'il en prend plus. Donc, il ne faut peut-être pas qu'il en prenne plus que son taux d'impôt qu'il paye actuellement. Donc, il y a beaucoup de planification qu'on fait, à savoir, bon, j'ai une prime de départ, mais combien de revenus que j'ai et combien c'est payant de prendre des REER inutilisés.
Mais dans l'immédiat, on peut sauver de l'impôt.
Oui, on va sauver de l'impôt, tout à fait. Bien, en fait, on va sauver de l'impôt. C'est l'impôt qu'on a payé qui va être remboursable à la retraite. Il ne faut jamais oublier qu'un REER, on sauve de l'impôt maintenant, mais on doit la rembourser. C'est un report d'impôt. Ah. Okay? Ce n'est pas une économie d'impôt, contrairement à ce que les gens pensent.
C'est un report.
Donc, il faut reporter l'impôt. Et c'est pour ça que ça vous parle une bonne planification. Parce que l'autre mythe que j'entends le plus souvent, des REER, c'est pas payant. Bien oui, quand vous avez reçu votre retour d'impôt, vous l'avez dépensé au moment que vous aviez le plus de revenus, et rendu à la retraite, quand c'est le temps de le rembourser, vous n'avez pas beaucoup de revenus, puis là, vous dites, bien là, je sors un REER, puis je paye de l'impôt. Bien oui, vous payez de l'impôt, vous l'avez reçu plusieurs années avant. Donc, le report d'impôt, il faut le comprendre.
C'est ça qu'on oublie.
Bien oui, c'est ça, c'est facile d'oublier. Quand c'est le temps de payer, c'est facile d'oublier. Mais c'est pour ça que ça nous prend une bonne planification. Si tu savais, Robert, souvent, ce que je vais voir dans les gens âgés, c'est qu'ils vont se faire dire, bien, retire le minimum de tes REER, puis fais ça toute ta vie, mais ils perdent beaucoup d'avantages à faire ça. Ils perdent leur supplément de revenus garanti. Donc, il y a des planifications, même à la retraite.
Mais Lucie, plus on avance en âge, je connais des gens d'un certain âge, tu sais, quand ils arrivent à 70, 80, là, on devient anxieux, inquiet avec nos affaires de finances, puis d'argent. Puis...
En fait,
c'est insécure.
Oui, mais des grosses institutions comme la NOT, Group Investors, qui est là presque depuis plus de 100 ans, qui ont des renommées, les banques ici, ce sont des bonnes banques, tu sais, comparativement, exemple, aux États-Unis, où il y a 280 quelques banques, c'est pas la même chose. C'est pas la même réalité financière qu'on a ici, qu'ils ont ailleurs à travers le monde. Donc, on peut faire confiance.
Un groupe reconnu avec Investors, c'est pas l'entreprise Jobin. Investors, c'est connu, c'est établi.
Tout à fait.
Il y a une clientèle qui peut faire preuve à l'appui.
Écoutez, tout à fait. Et la planification financière qu'on fait comparativement à ce qu'une banque va vous offrir, va vous enrichir. Parce que ce n'est pas le produit que vous achetez qui est payant, c'est ce que vous faites et comment vous le faites.
Ah, c'est bon.
Et ça, c'est avec la personne avec qui vous le faites aussi.
Alors, Lucie, on communique par Internet, par téléphone?
On peut communiquer. Vous allez avoir toutes mes coordonnées sur le www.luciebouchard.com ou si vous allez par Internet sur le site CNV, vous trouvez ma photo à gauche, Lucie Bouchard, et vous allez trouver tous les numéros de téléphone ainsi que mon courriel. N'hésitez pas, envoyez-moi vos questions. Ça commence souvent par « J'ai une question, qu'est-ce que je dois faire dans tel cas? » Donc, ça me fera plaisir de vous aider.
Parfait. Et puis, d'établir une rencontre pour...
Qui ne coûte rien et qui n'engage à rien. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens vont voir que ça fait une grande différence.
Merci, Lucie. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Thérapieflash.com, un site de consultation professionnelle et unique pour se confier en toute confidentialité à propos de notre vie personnelle et professionnelle. Thérapieflash.com.
Sport.
Les Blue Jays de Toronto ont créé l'égalité dans leur série de division contre les Rangers du Texas en l'emportant 8-5 hier à Arlington. La cinquième et décisive rencontre aura lieu mercredi au Centre Rogers. Toujours au baseball, tirant de l'arrière 2-1 dans la